C'est ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique, les amis. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de la magie de Disney avec Ditsit Disney. Et oui, quand la magie de Disney rencontre celle de Ditsit, eh bien forcément, ça donne un jeu magnifique. En fin d'émission, on retrouvera Paul-Henri et Céline pour parler d'apprentissage et de jeu autour de 6 qui prend. Et tout de suite, on retrouve la spécialiste du jeu des enfants, c'est bien sûr Anne-Gaëlle. Salut Anne-Gaëlle.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de petites souris?
Oui, je vais vous parler des toutes petites souris dans le jeu qui s'appelle Le Clan des Souris. Donc c'est un jeu coopératif, ou d'ailleurs du memory, à partir de 4 ans, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes. Et donc c'est un jeu de Christophe Laura, illustré par Marie Desbons. Et en fait, c'est édité par Debac le jeu et distribué par Ludistri.
Alors, parle-nous de ce jeu du Clan des Souris.
Alors, je vous plonge un petit peu dans l'ambiance comme à chaque fois. Notre tante, c'est la petite souris, vous savez, hein, celle qui ramasse les petites dents et qui les échange contre des petites pièces. Et ben voilà, donc. C'est notre tante, mais elle a beaucoup de boulot. Franchement, elle n'arrête pas, là. Voilà, on mange trop de bonbons, peut-être.
Bah, peut-être, ouais. Peut-être.
Mais nous, on est ses neveux et nièces, et on va l'aider durant une nuit. On va devoir récupérer les dents des enfants animaux.
D'accord.
C'est bien des animaux qui vivent dans une forêt qui s'appelle la forêt d'Andelay.
Tu l'as, oui, la forêt d'Andelay.
Et donc, on a toute la nuit pour être des super-héros pour elle, en fait, et récupérer les dents. Sauf que dans la forêt, ben, il va y avoir des petits animaux qui rôdent et qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, l'objectif pour pouvoir gagner une partie, ça va être de récupérer 9 dents. 3 petites, 3 moyennes, 3 grandes. OK ?
OK.
Et le jeu, il va y avoir une version simple du jeu, super classique, et une version avancée plus intéressante en termes de gameplay, mais il faut toujours commencer par la version classique pour jouer le jeu, et puis même avec les 4 ans, les tout petits, ça va être plus abordable. Donc en fait, on va installer une grille de 9 tuiles, d'accord, 9 petites cartes.
Okay.
Sur chacune de ces cartes, en fait, il va y avoir 3 animaux qui vont être dessinés, petits, moyens et grands.
Mm-hmm.
D'accord ?
D'accord.
À son tour de jeu, c'est hyper simple. L'enfant va retourner une carte, l'enfant ou l'adulte hein, d'ailleurs, une carte mission qui va lui indiquer un animal à trouver. On doit trouver sa dent. Donc, parmi la grille de 9 tuiles, enfin de 9 cartes, il va falloir retourner une carte. Si cet animal, enfin l'animal de la mission, est sur la carte que l'on a retournée, on va pouvoir gagner une dent de la taille dont l'animal est représenté. Exemple, s'il est en tout petit, on gagnera une petite dent. S'il est moyen, une moyenne dent. S'il est en gros dessiné, on gagnera une grande dent.
Mmh.
Si jamais il n'est pas sur la carte, oups, on s'est trompé, on va retirer un des 11 jetons lune. Donc au début, on va avoir 11 jetons lune, et c'est ce qui va nous faire le décompte. Si à un moment donné, on n'a plus de jetons lune, le jour s'est levé, on n'a pas réussi notre mission, donc on aura perdu.
D'accord, ok.
Mais c'est un jeu coopératif, et là tu te dis, il n'y a pas trop de coopération, chacun joue.
Bah non, ouais, c'est ça, chacun joue de son côté pour le moment.
Eh bien, en fait, chaque joueur va avoir une petite... Un petit personnage va avoir son petit pion souris. Et avant, dès que le joueur a retourné en fait, sa carte mission, les joueurs passifs, s'ils ont une idée et se souviennent où est la carte, ils vont pouvoir placer leur jeton en fait, sur le contour du carré qui est créé par les cartes pour indiquer une ligne ou une colonne où lui, il est sûr qu'il y a la carte demandée. Donc, il va pouvoir aiguiller le joueur actif qui doit retourner et essayer de remplir la mission pour pouvoir en fait retrouver le petit bonhomme. Alors par contre, il ne faut pas mettre systématiquement son bonhomme si on ne sait pas où ça se trouve, parce que sinon ça va l'induire en erreur possiblement.
Eh oui, d'accord. Donc on est sur
un
genre de memory aussi. Hein.
Un genre de memory, complètement un memory revisité, un peu comme on avait déjà pu voir ensemble Cendrillon, mais
ouais,
sur une autre thématique. Mais ce qui va être intéressant, c'est la version avancée en fait, qui est derrière. La version avancée qui est derrière, cette fois-ci, on a une grille de 16 cases. Donc, on en avait 9 tout à l'heure, cette fois-ci, on en a 16.
D'accord.
On va retrouver les mêmes cartes animaux, forcément, puisque c'est là où je joue le gameplay. Mais on va retrouver aussi des tuiles spéciales qui vont avoir, en fait, des effets quand on les retourne. Les tuiles, quand on les gagne, on va les mettre sur le côté. Elles pourront être activées quand on veut. Et dès qu'elles sont activées, on va pouvoir les défausser. Donc, on va avoir la tuile égarée qui va nous faire perdre une lune. Et là, on n'a pas le choix, on le fait aussitôt.
Ouais.
On va avoir la carte bougie qui va nous permettre de regarder une tuile avant de jouer.
D'accord.
Mais dès qu'elle est utilisée, la bougie,
hop,
elle s'en va.
Ouais.
Voilà. La tuile fée chouette qui va nous permettre d'éviter de perdre un jeton lune. Donc si on est un peu tendu, on peut l'utiliser pour éviter de perdre. Et enfin, on va avoir des objets magiques qui vont être cachés. Et ces tuiles magiques vont nous permettre de se défendre contre des vilains, puisqu'il y aura des cartes vilains. Des vilains qui vont nous embêter. Il y en a 3 différents. On nous conseille dans la version d'en jouer avec une, mais après, on peut en faire encore varier les difficultés en ajoutant deux ou trois. Enfin, chacun va pouvoir moduler en fonction de la partie qu'il veut faire. Et en fait, les petits vilains, eh ben, ils vont nous embêter. Dès qu'ils vont être révélés, ils vont avoir des effets négatifs pour nous embêter. Et il va falloir s'en débarrasser en retrouvant les objets magiques qui le nécessitent pour pouvoir qu'ils disparaissent et que l'effet négatif s'arrête.
D'accord.
Et dès qu'on le bat...
Ah ouais, ok.
Tu vois, ça va un petit peu plus loin. Et en fait, dès qu'on va le battre, on va avoir la possibilité de gagner un objet magique qui va nous aider aussi.
Et voilà. Ça, c'est à partir de quel âge, du coup, alors ?
Alors, 4 ans pour la version de base.
Ouais.
C'est bien ce que je dis. Mais ce qui est chouette, c'est que après plusieurs parties, l'enfant, ça y est, il a capté, il y a 9 cartes, je retourne les dents, etc.
Ouais.
Je vais pouvoir faire avancer. Et le petit côté magique qu'il peut y avoir dans le jeu, c'est qu'en fait, dès qu'on gagne une dent, on la met pas juste là, ça y est, on a gagné la dent. Il va y avoir une tirelire, en fait, dans la boîte.
Ah.
Donc, on va glisser la petite
la
dent
petite
dans
dent
une dent, et c'est notre coffre à dents.
Donc, ça s'appelle le clan des souris.
Le clan des souris, tout mignon, tout joli, et très sympa sur la variante avancée.
Très bien, merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Allez, tout de suite, je vais t'emmener dans la magie de Disney, la magie de Dixit aussi. Et donc, quand les deux se réunissent, forcément, bah, c'est magique, hein,
j'ai envie
de te dire. Voilà. Ouais. Allez, à mercredi.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
S'il y a un jeu d'image qu'il faut avoir dans votre ludothèque et qui fait partie des meilleurs jeux, c'est bien sûr Dixit. Dixit, c'est un jeu sorti en décembre 2008, multi récompensé, Asdor en 2009 et Spiel d'Assyros en 2010, pour n'en citer que deux. Dixit est un jeu de Jean-Louis Roubira, édité par Libellude, le spécialiste du jeu d'interprétation d'images. Alors quand la magie de Dixit rencontre celle de Disney, forcément c'est quelque chose de grandiose qui s'annonce. Avant de parler de Dixit Disney, faisons un petit rappel du principe de Dixit. Alors lors d'un tour de jeu, un compteur est désigné, les autres joueurs devront deviner. À tour de rôle, chacun sera le compteur. Le compteur doit décrire une carte au choix de sa main. Chaque joueur a dans sa main autant de cartes qu'il y a de joueurs autour de la table. Il peut décrire la carte avec un mot, une phrase, un bout de proverbe, une chanson, une poésie, un mime, bref, tout ce qu'il souhaite. Le but est de faire deviner sa carte, mais pas par tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, le compteur prend connaissance de ses 6 cartes. Et il énonce donc un indice à voix haute en relation avec l'une de ses cartes. Les autres joueurs vont ensuite choisir une de leurs 6 cartes, se rapprochant au mieux de la phrase du compteur. Puis il la donne au compteur. Le compteur rajoute sa carte aux cartes reçues par les autres joueurs, il les mélange, puis il les place face visible sur la table. Et c'est le moment du vote où chaque joueur, sauf le compteur bien sûr, au moyen d'une petite roue dans cette version Disney, va voter pour la carte qu'il pense être celle du compteur. Quand tout le monde a voté, eh bien on compte les points ainsi gagnés. Et c'est là que ça se complique pour le compteur. Si tout le monde ou personne n'a trouvé la carte du compteur, il a perdu. Soit son indice était trop facile, soit trop difficile. Il faut savoir trouver le juste milieu. Tous les autres joueurs, eux, gagnent un certain nombre de points. Si seuls quelques joueurs ont trouvé la carte du compteur, ils remportent avec le compteur 3 points chacun. Et les joueurs qui se sont trompés font gagner des points au propriétaire de la carte pour laquelle ils ont voté par erreur, le récompensant d'avoir mis une carte se rapprochant de la définition du compteur. Désormais, fini les petits lapins pour compter les points, vous allez avancer de magnifiques figurines Disney. Une fois que tout le monde a avancé, ou pas, on redonne une carte à chaque joueur et le compteur change dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque partie se joue en 30 points. Alors dans Dixit Disney, ce sont des cartes représentant l'univers Disney et chaque carte représente un dessin animé de Disney. Mais attention, ce n'est pas les images des dessins animés ou des films d'animation de Pixar qui ont été reprises pour illustrer le jeu, mais c'est un travail d'illustration de Nathalie Dombois qui pendant 2 ans a retravaillé l'univers Disney pour avoir des cartes dans l'esprit de Disney mais aussi de Dixit. Par exemple pour Aladdin. Alors on va retrouver sur la carte un sablier scintillant rempli de sable de la caverne aux merveilles ainsi que la lampe emblématique du génie. Elle a créé 84 cartes avec des thèmes Disney en restant dans l'univers Dixit, ce qui permet aux joueurs de ne pas trouver tout de suite la carte recherchée, sauf si bien sûr il y a Mickey et que vous dites Mickey. Ou par rapport à la carte représentant l'univers d'Aladin, vous dites Aladin. Dans ce Dixit Disney, il faut savoir trouver les mots justes, les phrases, sans jamais évoquer le nom des dessins animés, sinon ça serait beaucoup trop facile et sans intérêt. Voilà donc tout le sel du jeu de ce Dixit Disney. Et si vous aimez l'univers de Mickey, Asmodée a sorti aussi un double pour les 100 ans de Disney. Vous allez retrouver donc tous les personnages de vos dessins animés préférés.
Des jeux, des hits, c'est ludique. C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et on continue dans C'est Ludique à parler de jeux et d'apprentissage avec Céline et Paul-Henri. Bonjour.
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 Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu, un grand classique, hein, j'ai envie de dire.
Ah oui, un grand classique par un auteur qui a plusieurs fois gagné le Spiel, qui a fait beaucoup de bons jeux, et là qui a sorti il y a des années un jeu très facile à sortir, intergénérationnel, qui est pas cher, qui est vite mis en place, qui est juste un jeu de défausse, ouais. Qui s'appelle C'est ce qui prend.
Ah bah oui, tiens, C'est ce qui prend. Oh bah, je pense que tout le monde connaît le C'est ce qui prend. Hein.
Ouais, je pense aussi. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le principe est simple, c'est qu'on a chacun une main de 10 cartes et au début de la manche. Et en fait, on va tous programmer secrètement une carte, la retourner au milieu de la table. Et en fait, ces cartes vont venir s'agencer sur 4 lignes. Et en fait, il y a un agencement qui va être un petit peu automatique, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre... On va commencer par les cartes les plus petites et elles vont se mettre à chaque fois sur la carte qui est la plus proche par ordre croissant. Et il va pas falloir se retrouver en sixième position, sinon, d'où le titre du jeu, on va être la sixième qui prend, on va devoir ramasser toutes les cinq cartes qui étaient avant, tout le troupeau.
Ouais.
Et à la fin de la partie, ben, ça va pas nous aider à gagner parce que c'est celui qui aura le moins de têtes de bœuf qui aura gagné. Et forcément, il y a des cartes qui sont plus ou moins colorées avec plus ou moins de têtes et qui sont autant de pénalités.
C'est ça, hein, c'est pas les points des cartes qui comptent, c'est les têtes de bœuf. Hein.
C'est ça. Et alors forcément, la mécanique a l'air simple, on est vraiment sur un côté juste avec des cartes, des numéros et des têtes de bœuf.
Ouais.
Mais nous, à l'école, ben, c'est devenu un classique assez vite.
Oui, oui, un grand classique, parce qu'on aborde la numération, que c'est facile à mettre en place, qu'on peut jouer jusqu'à 10 joueurs, qu'il n'y a pas de temps mort parce que tout le monde joue de manière simultanée. Et alors l'intérêt qu'on a à le sortir à l'école, c'est justement pour transférer des connaissances mathématiques dans le domaine de la numération.
Ok.
On va aborder à la fois les connaissances ordinales de la suite numérique et l'aspect cardinal du nombre avec le dénombrement des têtes de bœuf. Donc c'est vraiment une situation où on va transférer des connaissances. On s'en sert pas pour apprendre concrètement au premier abord le nombre. C'est vraiment pour transférer des connaissances et vivre découvrir le nombre dans des situations ludiques.
C'est ça. Et puis on va travailler l'ordonner, le comparer, le classer. On va aussi devoir équilibrer sa main. On va devoir voir les limites qui se complètent. Et tout ça, ce qui est quand même assez magique, c'est que le jeu peut paraître un peu froid au premier abord, mais il y a des retournements de situation et le hasard vient s'en mêler, ce qui fait qu'il y a souvent une très bonne ambiance autour de la table.
Ouais. Et ah bah oui, ça c'est sûr. Il y a toujours une bonne ambiance avec le 6 qui prend.
Ah ouais, vraiment. Ben nous, quand on le sort, on sait qu'il va y avoir l'ambiance parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs niveaux de lecture. On va avoir des enfants qui vont le jouer un petit peu au pifomètre en se disant on verra bien ce qui se passe.
Ouais. Oui, même s'ils n'ont pas les stratégies, ils vont pouvoir choisir leur carte au hasard et quand même participer.
Et de notre côté, il va y avoir les enfants qui vont se dire attends, il y a ça qui est passé, il y a tel écart, je vais jouer gros parce que même si c'est du gros qui joue, ça va venir se placer avant moi, qui peuvent avoir un aspect très calculatoire et le hasard va venir lisser tout ça.
Ouais.
Donc ça en fait vraiment un jeu de grande accessibilité. Avec des niveaux d'appréhension du jeu très différents, hein.
Oui.
Et autant des enfants qui sont pas très forts sur les nombres vont y trouver leur plaisir et y participer, et des enfants qui sont très calculateurs vont se faire tout leur schéma dans leur tête.
Ouais. Ah oui, ouais. Oui.
C'est un jeu qui est accessible, donc on préconise à partir du cycle 2, parce que le minimum à savoir, c'est une connaissance des nombres jusqu'à 104.
Ouais.
Comparer les nombres et savoir les ranger dans l'ordre croissant. Les seules aides qu'on puisse apporter, c'est effectivement cette tenue des cartes, parce que 10 cartes en main, effectivement, il y en a pour certains, c'est difficile, donc on peut leur proposer le pince-carte. Mmh. Et pour ceux qui auraient des difficultés à se repérer dans l'espace et à anticiper le fait que la sixième carte va arriver, on pourrait imaginer un set de table avec les emplacements pour visualiser l'emplacement, surtout de la sixième carte qui peut arriver.
Ouais.
Ouais. Et après, puis... tu vois, un CP, moi, quand je l'avais fait jouer, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait incorporé dans les cartes à jouer que les nombres qui correspondaient à la suite numérique qu'on avait vue ensemble.
Ah oui,
comme
d'accord.
Ça,
les enfants, ouais.
Ouais, ils utilisaient juste des cartes qu'on avait abordées. Et comme des fois, se repérer sur quatre lignes, c'était un petit peu compliqué, on pouvait aussi démarrer, tu vois, sur deux lignes. Donc, on était resté sur du 6 qui prend, avec les numéros qui correspondaient aux numéros abordés en classe et qui étaient maîtrisés. Et sur deux lignes, comme ça laissait plus de facilité pour se repérer dans l'espace.
Et si on veut réduire le temps, même si c'est pas un jeu qui est très long, eh bien on peut partir avec un peu moins de cartes que 10 ouais. Prévues initialement.
Un peu moins de cartes ou un peu comme à Skijo où normalement on doit arriver à 100 points, où on peut se dire on le fait en une manche ou en deux manches.
Ouais. Et puis, plus on est nombreux, plus il faut aussi anticiper, non ?
Eh bien, paradoxalement, moi, tu vois, c'est là qu'au niveau du nombre de joueurs, alors c'est vrai que matériellement, ça peut se jouer jusqu'à 10 joueurs, puisqu'il y a 104 cartes et qu'il y en a 4 qui font le départ et 10 cartes chacun. Mais en fait, tu as moins de contrôle quand tu joues à plusieurs. Donc vraiment, alors à 2-3, c'est un peu dommage parce qu'on perd ce côté interaction qui est sympa. L'idéal pour moi, tu vois, c'est vraiment quand on est 4-5-6.
D'accord.
Oui, qu'on puisse être tous autour de la table et bien voir.
Ouais, bien voir. Et puis que tu ne te dises pas qu'avant que ta carte se place, il y a eu 7 cartes qui sont passées parce que ça fait tellement bouger le plateau que pour moi, il y a le côté fun qui, en fait, au fur et à mesure que tu rajoutes des joueurs, tu as le côté fun qui prend le dessus sur le côté calculatoire.
Ouais.
Et pour nous, c'est intéressant qu'il reste
garde
quand même
un contrôle.
Ce côté un peu
voilà.
calculatoire.
Et je vois sur BGA, quand il y a des parties qui se mettent en ligne, c'est rarement des parties à 10. C'est souvent des parties qui sont entre 4 et 6 joueurs où tu gardes cette partie un peu d'événementiel, mais quand même avec une certaine dose de contrôle.
C'est ça.
Ouais. Ah ouais. Donc ça s'appelle le 6 qui prend. Je pense que tout le monde connaît ce jeu de cartes. Et donc ça marche très très bien dans les écoles.
Hein. Voilà. Pas de souci, ouais. Vous pouvez y aller, les yeux fermés.
Merci beaucoup Céline, merci Paul-Henri. On se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt. Plaisir, au revoir.
Salut.